France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à mon invité Thierry Gilibeuf. Thierry, vous êtes écrivain, critique littéraire, traducteur, vous avez travaillé sur de grandes voix, Melville, Thoreau, Poe, on a aussi certaines affinités communes sur les écrivains d'Europe centrale, et vous avez accompagné des œuvres plus confidentielles, par exemple celle de Georges Perros. Ce matin, je vous invite à la fois comme spécialiste, critique littéraire et comme héritier, pour nous parler de l'œuvre d'un écrivain tout à fait singulier, Virgile Gheorghiu. Si vous deviez nous faire un portrait, disons un portrait chinois ou un portrait roumain, à quoi ressemblerait-il? En gros, Virgile Gheorghiu, en une minute chrono, c'est qui?
Virgile Gheorghiu, j'ai eu la chance de le connaître pendant les 6 dernières années de sa vie, et donc oui, je suis sur son ayant droit. C'était un pop orthodoxe, très grand, très élancé, avec un fort accent roumain, mais quelqu'un avec qui je n'ai que des bons souvenirs sur le plan humain. C'était un homme très très spirituel, très drôle. Et s'il y a une anecdote que je peux qui permettrait de le résumer, c'est, et non pas parler uniquement de la 25e heure, c'est que quand au moment de la chute de Ceausescu, Cabu avait fait un dessin dans le cadre enchaîné, où on voyait Gheorghiu avec un goupillon disant Ceausescu, ta 25e heure est arrivée. Et Gheorghiu adorait ce dessin, il l'avait agrandi, photocopié, et j'ai un exemplaire à la maison de ce dessin dédicacé par Gheorghiu. Voilà, donc c'est
Ah bah écoutez, je pense que les auditeurs pourront le voir, on le mettra sur le site de l'émission. Oui. Et alors, il faut quand même qu'on s'arrête un instant sur cette situation un peu folle. Comment devient-on l'héritier, l'ayant droit, le dépositaire d'un prêtre orthodoxe roumain de langue française, romancier, explorateur, et en effet un homme qu'on imagine avec sa grande soutane, des lunettes épaisses comme des hublots, et une silhouette presque byzantine?
Bon, je vais faire très court, mais je suis passionné pour l'œuvre de Gheorghiu à l'âge de 15 ans, parce qu'il y avait des livres de Gheorghiu dans l'annexe familiale de la bibliothèque dans ma chambre. Et j'ai eu la chance de le rencontrer donc en 6 ou 7 ans avant sa mort. Après, quand il est mort, je suis resté, je connaissais sa femme, donc je suis resté très lié avec sa femme, ils n'avaient pas d'enfants, et moi j'y suis allé de façon très désintéressée, parce que jamais une seule fraction de seconde, je m'étais imaginé m'occuper de son œuvre. Et puis à un moment donné, quand elle a commencé à vieillir, parce que j'allais la voir tous les mois, quand elle commençait à vieillir, elle m'a dit que vous accepteriez de vous occuper de l'œuvre du père, comme ça elle disait, à ma mort. Et donc, j'ai accepté, tout simplement. Ça se fait aussi simplement que ça, parce que il y avait des prêtres orthodoxes qui tournaient autour. Il y avait un vieux monsieur qui avait écrit une première monographie sur lui, qui tournait autour. Il y avait, la famille de Gheorghiu, qui lui voyait juste une espèce de manne financière, ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs, je peux le confirmer. Voilà. Et moi, en fait, je crois que le simple fait de n'y avoir jamais pensé, donc de n'avoir à fortiori rien demandé, fait qu'elle a pensé à moi.
Et la postérité de l'œuvre de Gheorghiu, elle est comment aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle n'est pas loin du degré zéro. Évidemment, il y a très peu de livres de Gheorghiu disponibles en français. Et puis, en Roumanie, il y a une maison d'édition. Je la salue, c'est Editura Sofia, à Bucarest, sous la direction de Mihaela Voicu, qui, avec son traducteur Gheorghiță Ciocioi, ont traduit l'intégralité de l'œuvre de Gheorghiu en roumain. Et qui est en train de... Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, et qui aura, d'ici 3-4 ans, sera le seul éditeur au monde à avoir publié l'œuvre complète de Gheorghiu. Ah
oui. Oui, il reste encore des manuscrits inédits.
Quand Madame Gheorghiu est morte à l'été 2008, le notaire m'a appelé, et au mois de septembre, et ensuite... au mois de décembre, on m'a appelé en me disant que j'avais 3 jours pour vider l'appartement des Gheorghiu, qui avait été aussi bien vidé, parce que moi je le connaissais bien, de tout ce qui était très, très beau, quoi, les objets de culte, les icônes, etc. Mais il restait les archives, les papiers, les livres, etc. J'ai passé une journée entière à transporter des cartons et à la toute fin, quand je pensais avoir fini, j'ai passé de 7h du matin à 21h, que j'avais le dos cassé. On m'a dit, il y a une cave encore, la cave des cantines, et dans une cantine, j'ai trouvé des manuscrits. Voilà, quelques manuscrits inédits, quoi.
Alors nous sommes chez Chrétien d'Orient, alors pourquoi parler de Virgile Gheorghiu aujourd'hui? C'est pour parler d'un livre assez peu connu, très peu cité dans sa bibliographie, ce récit, Christ au Liban. Comment entre-t-il dans la vie de Gheorghiu?
C'est un des quatre derniers livres, j'ai regardé, c'est dans la bibliographie, c'est un des quatre derniers livres publiés par Guriou de son vivant. Il est mort en 92 et c'est un livre qui est paru en 79, mais à partir de 86, il a décidé de se consacrer à la rédaction de ses mémoires. Donc Guriou a toujours entretenu un dialogue très fort avec des représentants de différentes confessions, puis il a aussi un lien très fort avec les exilés, par son statut même d'exilé lui-même. Et puis, il s'est passé un cas avec les Libanais, comme il se passera un cas un peu plus, enfin, il va le découvrir un peu plus tard avec les Coréens, les Sud-Coréens, c'est que la postérité de la 25e heure, dont on a du mal à imaginer quel succès cela fut en son temps, quel livre retentissant ça a été, que le premier à le saluer, ça a été quand même Camus. Eh bien, c'est ces peuples-là qui sont des peuples avec des histoires douloureuses, complexes, se sont identifiés avec cette histoire de Johann Moritz, ce paysan de la 25e heure, et donc se sont tournés vers Guriou, qui lui-même aime a toujours aimé sur ce dialogue, cette rencontre, cette découverte d'autres cultures. Donc c'est comme ça que ça c'est son lien. C'est fait, comme c'est un prêtre orthodoxe, un pope, quand c'est avec des chrétiens, c'est encore plus important pour lui. Et donc, il a sympathisé avec des chrétiens libanais et qui l'ont invité à venir au Liban. C'était au début de la guerre civile, il est venu.
Oui, c'est ça. Voilà, ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est quand même dans un contexte de guerre et c'est aussi la raison de son départ rapide.
Oui, c'est la raison de son départ rapide, mais j'ai chez moi des images où on le voit dans sa soutane avec des, enfin non, pas sa soutane mais son habit de civil de pop, on le voit avec les représentants des milices chrétiennes libanaises et dont Bachir Gemayel. Donc il les a rencontrés, des moines sur place, l'autorité supérieure des maronites, etc. Donc
c'est ça. Et alors en fait, ce départ vers un Liban sous les bombes, qui décrit au début du livre, Beyrouth, il arrive à l'aéroport, et là il décrit à la fois sa petite Roumanie soviétique et la guerre. Il disait d'ailleurs, je crois, je ne supportais plus les ruines, et me voilà à nouveau cerné par les flammes. Ce départ, c'est l'occasion pour lui de faire une sorte de gigantesque fresque, à la fois des maronites, du Liban et des christianismes orientaux.
Je reviens vite fait sur les ruines, c'est-à-dire qu'il a très bien connu ça parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été reporter de guerre. Donc il a vu ce qui se passait. Bon, il a fait un reportage qui est un peu compliqué là-dessus. Il a vu ce que c'était que il a concrètement vu ce qu'était la guerre puisqu'il était allé en Bessarabie et qu'il a pu voir, en particulier, les églises pillées, saccagées, etc. Je pense qu'il y a une identification très forte de Guriou avec l'identité maronite, c'est-à-dire que c'est une minorité persécutée, mais une minorité combative et aussi tolérante. Et c'est quelque chose qui le fascine, ça, cette tolérance des maronites le fascine. Et c'est aussi une des toutes premières églises chrétiennes, donc qui est fidèle, qui célébrait en araméen, donc la langue du Christ, de Jésus. Donc je pense qu'il s'est plongé, c'était comme un bain révélateur ce voyage. Il avait peut-être une vague connaissance comme je pouvais avoir moi avant de le lire du culte maronite. Il s'est plongé là-dedans, il a beaucoup échangé, j'imagine, parce que c'était quelqu'un qui aimait énormément dialoguer. Et puis ensuite, il a fait ses propres recherches. Ouais. Il a écrit une fresque qui remonte aux origines Abraham jusqu'à aujourd'hui.
Hein. Il s'y fait montre d'une érudition vertigineuse. Mais avant de parler précisément du culte maronite, moi j'avais une intuition que je voulais vous soumettre, c'est que cette affinité d'un homme venu des Balkans qui reconnaît une sorte de gémellité ou de fraternité dans une autre petite nation orientale qui est celle du Liban, ça me fait penser évidemment à la formule de Yann Patochka, la solidarité des ébranlés, et je voulais vous soumettre deux citations, si vous me permettez, et ensuite je ne parlerai plus et je vous laisserai le micro.
Si, c'est un dialogue.
La première est dans Dracula dans les Carpates, qui est un autre ouvrage de Guriou. Dans nos 2000 ans d'existence terrestre, nous les Roumains, nous avons été libres et indépendants pendant quelques dizaines d'années. Tout le reste du temps, nous avons été occupés par des envahisseurs venus de l'Est. Les Huns, les Goths, les Tatars, Attila, Tamerlan, tous les fléaux de la Terre et toutes les hordes de l'Asie ont déferlé ici, dans la grande banlieue orientale de l'Europe. On n'a pas eu de chance dans l'histoire, c'est un malheur géographique. On est mal placé sur la carte d'Europe. Toutes les hordes affamées surgies de l'Asie, de la Mongolie et de la Russie qui déferlaient sur l'Occident pour le piller, passaient obligatoirement à travers la Roumanie pour arriver en Occident. Voilà, ça c'est la citation d'un Dracula dans les Carpates. Et ensuite on ouvre le Christ au Liban et on tombe sur ça. Les peuples qui vivent des millénaires comme les cèdres subissent plus d'intempéries que ceux dont la vie est plus courte. Durant leurs 6 millénaires d'existence, les maronites et leurs ancêtres ont connu d'innombrables occupations, invasions, guerres, tremblements de terre et toutes sortes de calamités. Durant ces 6 millénaires d'existence, les Maronites et leurs ancêtres ont toujours évité la guerre, lui préférant la négociation et les arrangements pacifiques, même s'ils devaient payer un lourd tribut, ils préféraient perdre de l'argent que des vies humaines. Donc là, on voit vraiment un parallèle fait entre une petite nation d'Europe orientale et une petite nation d'Orient.
Oui, je pense que c'est tout à fait juste, et cette citation de Dracula dans les Carpates, donc, qui est justement un des manuscrits inédits que j'ai trouvé. Oui. Alors, je connaissais certains textes comme ça, mais ils étaient mentionnés à droite à gauche, mais sans avoir jamais paru. Mais celui-ci, je ne connaissais pas du tout l'existence, et on les a publiés avec Colette Lambrix au Canoë il y a 2-3 ans. Et donc, dans ce texte-là, et comme dans ces autres, dans un certain nombre de textes antérieurs, et le parallèle que Georges Gurgiou fait, et là, ça saute aux yeux pour moi, c'est avec les ancêtres des Roumains, les Daces. Donc, chez qui Ovide a été, exilé. Et les Daces se nommaient eux-mêmes les immortels. Ils avaient un personnage semi-mythique qui s'appelait Zamolxis, auquel Mircea Eliade avait consacré un ouvrage assez passionnant. Donc, il y a un lien très fort avec une religion monothéiste, très ancienne, dans un des pays qui sont en effet, la Roumanie, elle est mal située géographiquement, c'est en tout cas ce que dit Gurgiou, dans la grande banlieue de l'Europe, le Liban chrétien est noyé dans un environnement musulman aujourd'hui. Donc il y a une identification très forte entre cette minorité maronite et c'est les Roumains héritiers des Daces. C'est pour moi c'est évident.
Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de reconnaissance entre des petites minorités culturelles qui vivent un peu à cheval dans une incertitude existentielle. Et comment ils parlent des Maronites? C'est quoi le ton, la ferveur, la gravité?
Ah ben, il en parle avec une admiration profonde et il insiste toujours sur deux choses, les deux traits caractéristiques qu'il répète tout au long de leur histoire, c'est d'une part leur hospitalité. Il dit que le Liban a été créé par Dieu pour accueillir tous les exilés, tous les apatrides, tous les persécutés. Et il parle de leur très grande tolérance. Et de fait, la mosaïque libanaise qu'il décrit avant 1948, et avant l'arrivée massive des Palestiniens, il décrit une mosaïque qui avait fini par s'entendre, où toutes les religions fonctionnaient ensemble, comme anciennement à Antioche, où il y avait un dialogue, il y a eu des affrontements, mais il n'y en avait plus. Après, se sont intervenues les puissances européennes, puis après, l'exil des Palestiniens, l'intervention soviétique, donc tout ça après, des Américains, tout ça a fortement compliqué l'équilibre. Mais il y a dans le dernier chapitre, il parle du Liban contemporain, enfin du Liban il y a 45 ans, mais du Liban contemporain pour quand il est allé. Et il parle de ces trois dragons. Il y a le dragon musulman,
le dragon coranique.
Coranique, exactement. Vous faites bien de me rectifier. Le dragon coranique. Sachant que Gurgiou a écrit un livre formidable sur Mahomet, il a écrit une vie de Mahomet qui est passionnante, dans l'actualité de Gurgiou, on me demande régulièrement, j'ai beaucoup de contacts avec des éditeurs arabes qui me demandent l'autorisation de pouvoir le traduire. Ah oui. Donc, elle est vraiment très appréciée, respectée par le monde arabe. Il y a le dragon soviétique. Et il y a le dragon américain.
Outre-Atlantique.
Mais enfin, il dit quand même, parce qu'il est un peu anti-américain. Et donc, il y a, je pense, à part l'élément coranique qui n'a pas lieu d'être avec la Roumanie, il y a une identification avec son propre, le destin de son propre pays.
Oui, vous avez devancé ma question. Je voulais vous demander si cette métaphore des trois dragons ou cette parabole, avec le recul, vous la trouviez naïve, excessive ou au contraire étrangement prémonitoire.
Les équilibres ont quand même changé aujourd'hui, donc même s'il y a, c'est intéressant de voir quand il parle on voit l'émergence, le livre est écrit en 78, paru en 79, c'est 3 ans avant l'accession au pouvoir, puis l'assassinat de Bachir Gemayel, donc 3 ans aussi avant le massacre de Shabra et Shatila. C'est un Liban, comment aurait été le livre s'il avait écrit quelques années plus tard, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de prémonitoire, oui, jusqu'à un certain stade. Ensuite, il y a les équilibres aujourd'hui ont changé, sont plus du tout les mêmes qu'il y a un demi-siècle. Lui, il fonctionnait quand même beaucoup. On était en pleine guerre froide, ce qui n'est plus, même si on est dans une nouvelle nouvelle guerre froide d'aujourd'hui, mais pas à deux, au moins à trois. Il fonctionnait beaucoup sur ce qu'il avait vécu à titre personnel. Il avait une analyse géopolitique avec ses marges d'erreur, hein, comme tout un chacun, qui sont liées à son parcours personnel, quoi. Mmh.
Et il parle aussi d'un massacre, le massacre de Damour, que beaucoup ont oublié. Mais
ah oui,
ça,
moi
c'est
le premier, j'avais complètement oublié, un massacre de Maronites par les Palestiniens et
des forces libanaises anti-chrétiennes.
Voilà, c'était l'OLP qui était derrière, ou le Fatah. Voilà, actuellement, on ne sait pas qui est exactement derrière, mais c'est un massacre. Bon, ben pour le coup, qui peut faire penser dans sa barbarie quand même un peu à ce qui s'est passé le 7 octobre. Hein. Ça y ressemble beaucoup, hein, avec des cris des femmes dont on coupait les seins, dont on pendait aux arbres, etc. Des familles massacrées, des enfants massacrés sur les genoux de leur mère. Enfin bon, donc ça rappelle quand même quelque chose. Hein.
Ouais, c'est assez vertigineux. Je pensais aussi, moi, en lisant le livre, à ce qui s'est passé dans le Kurdistan irakien en 2014.
Exactement. Oui, tout est...
Mais tout en étant, en fait, ce livre est daté. En le relisant, on le sent.
Oui.
Et paradoxalement, il a une postérité très faible, alors que c'est une ode absolue au Liban, à sa beauté, etc. Donc c'est une vraie déclaration d'amour quand même.
C'est une grande déclaration d'amour. C'est un livre daté sur le plan l'analyse géopolitique, peut-être, sans aucun doute. Hein, mais c'est par ailleurs, si on exclut le dernier chapitre, parce qu'il s'est passé 45 ans depuis, si on exclut ce dernier chapitre, c'est en effet une grande déclaration d'amour. Puis c'est un de ces livres théologiques, comme Gurgiou en a écrit quelques-uns, qui sont toujours embrassés par une grande passion. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup le dialogue, qui aimait beaucoup le dialogue avec les autres cultes, mais avec une vision œcuménique particulière, c'est-à-dire qu'il était vraiment pour un très grand dialogue avec les différentes confessions, mais je pense que c'est ce qu'il admirait chez les Maronites, tout en conservant intégralement et sans concession sa propre identité. Donc le dialogue, il fallait que ce soit dans une tolérance mutuelle, mais où chacun conservait intégralement l'identité de son culte. Ça, c'était quelque chose à laquelle il tenait. C'était les limites de son œcuménisme, ça. Mais c'était pas quelque chose d'excluant. Il fallait que les passerelles se fassent, mais chacun restait conforme à son identité.
Ça, vous le déduisez à travers les lignes, ou il a écrit spécifiquement sur son rapport à l'œcuménisme?
J'ai quelques articles où il en parle là-dedans, et on voit que c'était au moment du pontificat de Jean-Paul II. C'est là où il intervient, et même avec Vatican II, où il prend quand même des distances vis-à-vis de ça. Il a perpétué ce dialogue, mais avec les différentes confessions, mais toujours avec cette volonté que chaque religion correspond. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que je pense qu'inconsciemment c'est lié au fait d'appartenir à un pays, un petit pays comme on dit, ou en tout cas un pays qui est aux marges, et donc on défend comme on peut, c'est ce qu'ont fait les Maronites. On trouve la même chose chez les Hongrois, on trouve la même chose chez les Albanais, chez les Tchèques. Il faut défendre son identité, quoi.
Et là, je voudrais m'adresser à l'érudit littéraire que vous êtes. Dans quelle constellation littéraire vous placez Gurgiou aujourd'hui?
J'ai un rapport très très compliqué avec Gurgiou, enfin très compliqué, c'est une grande fidélité. Moi je l'ai connu, ça fait plus de 40 ans que je le lis. Je découvre quand même qu'il y a quand même des zones d'ombre, un peu plus noires que je ne le pensais. Reste que la 25e heure, c'est quand même un livre, je l'ai relu moi il y a 10 ans pour la dernière fois, parce que pour le centenaire de Gurgiou, je suis allé à Bucarest, donc je l'ai relu, et ça faisait 25 ans que j'avais pas lu. Je me suis dit, bon, peut-être que, c'est toujours aussi extraordinaire comme bouquin, ça. Et il y a le livre qu'il a publié après, qui s'appelle La Seconde Chance, qui est peut-être encore meilleur que celui-ci. Je pense qu'il a au moins écrit ces deux très très grands livres, mais il en a écrit plusieurs autres.
Oui, les Agapias,
c'est très bien. Mais même ce livre qu'il a écrit sur les Das, qui s'appelle Le Peuple des Immortels, qui est un essai, qui, moi, je trouve ça formidable. Et sa biographie de Saint Jean Bouche d'Or est très belle, Saint Jean Chrysostome. Il y a un livre de la fin, un roman très intrigant qui m'a toujours beaucoup plu, qui s'appelle L'œil américain, Les Sacrifiés du Danube, Perheim.
J'ai adoré Dracula dans les Carpates, du Haïdouk, ces brigands des montagnes.
Et
des
puis pour moi c'était vraiment un mélange entre Kadare et Istrati, c'était avec cet absurde, quoi. Moi je pense que il a sa place à côté de Kessler, des gens comme ça, c'est vraiment, en tout cas avec ses, ne serait-ce qu'avec la 25e heure à la seconde chance. il mériterait une place supérieure dans la littérature, et il mériterait une redécouverte, et puis peut-être que ça deviendra un jour.
Nous y œuvrons à toute petite
beaucoup,
échelle.
En tout cas, oui, merci
beaucoup, Thierry. Sur quelle musique nous quittons?
Alors, on se quitte sur une musique. Moi, je connais qu'un seul disque de chants maronites, c'est des chants de Sœur Marie Kérouz. J'aimerais beaucoup écouter Alal Kadish Kadish. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est le morceau, le titre du morceau.
Eh bien, on écoute, et je vous remercie chaleureusement, cher Thierry Gilibeuf, pour cette conversation vive à propos d'un auteur que nous aimons tous deux particulièrement et d'un pays cher à nos auditeurs. C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac, coordonnée par Claire Poinsignon, à la technique aujourd'hui Delphine Baudet. À très bientôt et bon dimanche.